Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Manuel Valls engage une deuxième fois la responsabilité de son gouvernement sur la loi Macron. Avec le 49-3, il n'y aura pas de débat à l'Assemblée sur un texte très critiqué à gauche. Nous verrons cela avec Stéphane Robert. Le gouvernement lance une instance de dialogue avec l'islam français. Construction de mosquées, pratiques rituelles, formation des imams. Beaucoup de sujets sont sur la table. Nous en parlerons avec notre invité, le chercheur Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Dans ce journal également, Marine Le Pen qui annonce avoir constitué un groupe au Parlement européen et l'Italie qui demande à la France de faire plus d'efforts pour accueillir les migrants de la Méditerranée. L'information n'est pas encore officielle, mais elle ne fait aucun doute. Selon plusieurs députés, Manuel Valls va une nouvelle fois recourir au 49-3 pour faire passer la loi Macron. Il s'agit de la deuxième lecture du texte à l'Assemblée. Le Premier ministre avait déjà engagé la responsabilité de son gouvernement pour la première lecture en février dernier. Concrètement, la loi Macron sera adoptée si Manuel Valls obtient la confiance des députés. L'avantage du 49-3, c'est qu'il permet au gouvernement d'éviter le débat sur un texte vivement critiqué par les frondeurs socialistes, Stéphane Robert.
Officiellement, rien n'est décidé, dit-on à Matignon. Mais en réalité, tout a été acté ce midi, au cours d'un déjeuner auquel le Premier ministre avait convié les rapporteurs de la loi et les présidents de commission. Il y a une décision de principe, explique un des participants. Nous lui avons tous dit qu'il ne pourrait pas échapper au 49-3. Il en a pris acte. Maintenant, la question est de savoir comment et quand il l'annonce. Il peut difficilement s'affranchir d'un certain nombre d'explications préalables devant le groupe socialiste demain matin à l'Assemblée. Manuel Valls devrait donc officialiser les choses demain en début d'après-midi et l'examen de la loi débutera plus tôt que prévu aux alentours de 16h15. Bah oui, maintenant il faut aller vite, explique un député. On a déjà passé 480 heures à discuter, on a voté 3000 amendements et là les positions n'ont pas évolué. Les frondeurs frondent toujours, les écolos sont contre, le front de gauche également, tout comme une partie des radicaux, et la droite ne va pas nous aider dans cette affaire. Et l'avantage, c'est que le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec le 49-3. Il devrait donc conserver le plafonnement des indemnités versées par les prud'hommes en cas de licenciement abusif, et il devrait également valider l'amendement qui détricote la loi Evin concernant la publicité pour l'alcool. Le problème maintenant est de savoir comment fait Valls pour ne pas faire perdre la face à sa ministre de la Santé, Marisol Touraine, fermement opposée à cet amendement Evin. Pour ça, eh bien, il devrait désigner une commission consultative qui rendra un avis favorable d'ici une semaine et on en sortira comme ça. En attendant, la motion de censure que ne manquera pas de déposer l'opposition n'a aucune chance d'être adoptée.
Stéphane Robert et les Républicains de Nicolas Sarkozy déposeront effectivement une motion de censure contre Manuel Valls. Du côté de la gauche radicale, les députés Front de Gauche aimeraient bien eux aussi déposer une motion, mais ils ne sont que 10, là où il en faut 58, d'où cet appel de Jean-Luc Mélenchon qui demande aux députés socialistes de se joindre à l'opposition de gauche pour, je cite, « censurer le gouvernement Valls et sa politique antisociale ». Nicolas Sarkozy avait mis en place le CFCM, le Conseil français du culte musulman. François Hollande et Emmanuel Valls lancent une instance de dialogue avec les musulmans français. Il ne s'agit pas de remplacer le CFCM, non. L'objectif est de mettre sur la table tous les sujets qui font débat, comme la construction des mosquées, la formation des imams ou l'exercice des pratiques rituelles. La première réunion de cette instance de dialogue a eu lieu aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et des Cultes. Laetitia Saavedra, il s'agit pour le gouvernement de renouer le fil du dialogue avec des musulmans qui ne veulent pas être les boucs émissaires des attentats de janvier.
Oui, avec des messages rassurants sur l'une des plus fortes préoccupations des musulmans, à savoir les actes islamophobes en hausse de 500% par rapport à 2014. Bernard Cazeneuve a estimé qu'ils étaient sous-estimés, je cite, et qu'il fallait que les victimes portent plainte systématiquement. Plus technique mais très attendue aussi, la revalorisation du statut des aumôniers en prison. Concernant la formation des imams, dossier sensible et en jachère depuis des années, eh bien les imams étrangers devront apprendre à parler le français. C'est une demande très forte des musulmans pratiquants et notamment des jeunes qui ne parlent pas toujours l'arabe. Des négociations sont en cours avec les gouvernements algériens, marocains et turcs. Et puis, les formations universitaires profanes destinées aux imams passeront de 6 à 12. enfin, plus politique, le ministre de l'Intérieur a conclu sous les applaudissements en disant « Vous n'êtes pas une clientèle électorale, vous êtes des républicains ».
Laetitia Saavedra, merci. Alors l'invité de ce journal, c'est le chercheur Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, auteur d'un rapport sur la politique de contre-radicalisation en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Conessa, les mesures proposées par le gouvernement concernant par exemple la formation des imams, est-ce que ces mesures vous semblent aller dans le bon sens ?
Oui, de toute façon, ces mesures vont dans le bon sens. C'était des dossiers qui étaient extrêmement anciens pour beaucoup d'entre eux. Et ce que je constate, ce qui me frappe le plus, c'est le changement de, comment dire, d'ambiance. Il est évident que les attentats ont accéléré et fait ressortir des dossiers qui étaient un peu couverts de poussière. Et puis, on a du côté de ces représentants de la communauté des Français musulmans, des gens qui sont décidés également à avancer. Donc, il y a un double changement d'attitude. Ça, je trouve ça très, très positif.
Alors, comment s'adresser aux musulmans sans tomber dans le piège de l'amalgame, surtout après les attentats de janvier ?
C'est-à-dire que moi, vous savez, je crois que ce sont des Français, d'abord, c'est la première chose, et pas des musulmans. C'est-à-dire ce sont des Français, pour certains, sont des musulmans laïcs, des musulmans athées. Donc ce qu'a pris en compte Monsieur Cazeneuve comme Manuel Valls, c'est le fait que cette partie de la communauté française est une partie d'une très grande diversité dans laquelle il y a non seulement des problèmes culturels, mais il y a aussi des problèmes qui sont une espèce de pensée de cette communauté sur elle-même. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'universitaires qui sont issus de cette communauté, qui ont des analyses extrêmement intéressantes sur l'histoire de l'islam, une division critique de l'islam, etc. Et ce sont ces intellectuels et ces élites et ces littéraires, ces écrivains, etc., qui sont maintenant des fleurons de la société française. C'est ça qui est la nouveauté, c'est-à-dire qu'on ne limite plus l'approche de cette partie de la communauté française ou à la question religieuse. Et ça, c'est extrêmement nouveau.
Et selon vous, il y avait effectivement une tendance au sein de la classe politique française à réduire les musulmans à une dimension purement religieuse ?
Absolument, absolument. Et effectivement, d'ailleurs, vous voyez bien que sur le côté de l'islamophobie, on voit toute cette frange de la communauté comme si c'était uniquement des musulmans. Et l'islamophobie est un peu, effectivement, la concrétisation de cette, comment dire, distorsion de la vision. C'était une communauté qu'on ne voyait, en fait, que par deux de ses extrémités, qui étaient d'une part le CFCM, qui, faut bien le reconnaître, n'était pas une très grande réussite, hein, et autant du fait des gens qui le composaient, que de l'autre côté, de ces extrémistes qui sont responsables des attentats de janvier. Et finalement, toute cette partie de cette communauté de classe moyenne, parfaitement intégrée aujourd'hui, qui demande simplement à pouvoir pratiquer leur religion de manière tout à fait tranquille et discrète, c'est un peu ceux-là qui sont aujourd'hui les héros de l'histoire.
Pierre Conessa, un mot peut-être sur la proposition de Dalil Boubaker, le président du CFCM, qui suggère d'utiliser des églises vides pour l'exercice du culte musulman en France. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, je pense que c'est une proposition qui me paraît pas très astucieuse, parce que c'est effectivement pas comme ça que le problème va se poser. En tout cas, je sais que ça va, comment dire, rendre un peu urticant à l'égard d'une partie de la communauté française qui ne sent pas obligatoirement la nécessité de transformer des églises en mosquées. Non, moi, le problème qui me préoccupe le plus, si vous voulez, j'étais cet après-midi en prison avec des détenus condamnés pour des phénomènes de violence, des radicaux, etc., c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le contact avec cette partie-là, qui est la partie la plus inquiétante. Ceux qui sont aujourd'hui à débattre avec M. Cazeneuve et avec M. Valls sont évidemment des gens qui sont déjà fortement intégrés dans la société française. Aujourd'hui, c'est comment va-t-on traiter les autres, c'est-à-dire ceux avec lesquels on n'a aucun contact et qui sont dans une espèce d'enfermement religieux et intellectuel terrible.
Et ces tendances radicales séduisent un certain nombre de jeunes musulmans français aujourd'hui ?
Absolument, absolument. Et ils sont d'ailleurs d'une extrême intolérance même à l'égard parfois de leurs parents, parfois des autres musulmans, si vous voulez. C'est un discours sur « moi je suis dans la vraie voie » et eux ce sont des mauvais musulmans, voire des non-musulmans. Et ça, cette pratique salafiste est une pratique d'une très grande intolérance et extrêmement préoccupante parce que c'est une espèce de préparation à une espèce de violence potentielle, d'abord tournée contre les autres musulmans. Hein. N'oubliez pas, par exemple, des projets d'attentat contre M. Boubaker. Et ça, cette partie-là, cette espèce de discours salafiste est extrêmement préoccupant.
Alors, le salafisme a tout de même un pays, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est pourtant un allié privilégié de la France.
Écoutez, ne m'obligez pas à parler de la diplomatie française sur ce sujet.
Si, allons-y.
Ben non, écoutez, franchement, aller se battre contre Daesh parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il opprime les femmes, il interdit les autres religions pour défendre l'Arabie Saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdit les autres religions, me pose des problèmes, si vous voulez, psychologiques et politiques que j'arrive pas à résoudre. Non, il y a une espèce de dérive incroyable de la diplomatie française dans cette région du monde où il n'y a absolument aucun équilibre entre sunnites et chiites. Or, la guerre de religion qui aujourd'hui tue plus de musulmans que de non-musulmans. Hein. Aujourd'hui, vous avez des attentats terroristes tuent 10 fois plus de musulmans que de non-musulmans. Nous sommes acteurs des radicaux sunnites, c'est-à-dire qu'on soutient l'Arabie Saoudite. Je ne comprends pas.
Et vous pensez que justement la France devra peut-être revoir sa diplomatie concernant les monarchies du Golfe ?
Écoutez, je pense que de toute façon, la France devrait avoir une politique plus équilibrée. Il n'y a pas de raison de prendre fait et cause pour certaines victimes plutôt que pour d'autres. Vous voyez bien que ce qui se passe en Irak, on a des massacres interculturels qui sont des massacres de sunnites sur chiites et de chiites sur sunnites. Il y a aujourd'hui 7 pays de la région dans lesquels la guerre est une guerre sunnite-chiite entre le Yémen, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, etc. Et c'est ça la caractéristique. Donc avons-nous à prendre position pour un des camps ? C'est une guerre de religion. Donc il faudra prendre nos distances vis-à-vis des gens qui sont les plus radicaux, en particulier l'Arabie Saoudite. Pierre, faisons du commerce sans avoir à soutenir ce régime.
Pierre Conessa, eh bien, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir.
Merci. Au revoir.
C'est une surprise. Marine Le Pen annonce ce soir avoir réussi à constituer un groupe politique au Parlement européen. La patronne du Front National avait pourtant échoué dans son entreprise l'an dernier, dans la foulée des élections européennes. Plusieurs députés populistes européens avaient décliné son offre, visiblement échaudée par l'image sulfureuse que renvoie souvent le FN à l'étranger. Cette fois, Marine Le Pen semble être parvenue à ses fins. Le nom de son groupe Europe des Nations et des Libertés reste à en connaître le détail, Pierre Benazé.
Pour constituer un groupe politique au Parlement européen, il faut regrouper au moins 25 élus de 7 nationalités différentes. Il manquait donc 2 pays au futur groupe Europe des Nations et des Libertés. Outre les 2 pays à l'origine de ce rassemblement, à savoir le Front National et le PVV, le Parti pour la Liberté du néerlandais Geert Wilders, 3 autres partis avaient en effet formellement annoncé leur intention de s'y joindre. Il s'agit de la Lega Nord en Italie, des séparatistes flamands du Vlaams Belang en Belgique et de la FPE, le Parti autrichien pour la Liberté. À eux seuls, il rassemble 37 députés. Toute la question est maintenant de savoir qui sont les 2 partis qui rejoignent ce nouveau groupe. Certains ici affirment que ce pourrait même être uniquement 2 députés de 2 pays différents qui quitteraient leur formation actuelle, et les rumeurs citent une Britannique et une Hongroise. La constitution d'un groupe au Parlement européen permet de prétendre à des subventions qui pourraient tourner, en l'occurrence, entre 20 et 30 millions d'euros annuels. Cela permet aussi d'asseoir son influence, à la fois sur l'ordre du jour, en siège à la conférence des présidents, mais aussi sur les débats, en obtenant plus de temps de parole. Ce nouveau groupe ne devrait en revanche pas pouvoir prétendre à des présidences ou vice-présidences de commissions parlementaires. Elles ont toutes été réparties en juillet dernier.
Pierre Benazé, notre correspondant à Bruxelles. Le ton monte entre la France et l'Italie sur le sort des migrants de la Méditerranée. Paris a décidé de bloquer à la frontière à Vintimille des dizaines d'Africains qui cherchent à gagner le nord de l'Europe. Une attitude dénoncée par Matteo Renzi. Pour le chef du gouvernement italien, les Européens et notamment les Français doivent affronter ensemble le problème des immigrés. En Italie, les capacités d'accueil des migrants sont proches de la saturation. Matteo Renzi, qui est prêt à prendre des mesures radicales si l'Europe ne change pas de politique migratoire. Anaïs Feugat.
L'identité de l'Europe est en jeu, dit Matteo Renzi, qui, selon la presse, chercherait à faire pression sur la France et l'Allemagne, accusés de se cacher derrière les pays de l'Est qui s'opposent au plan Juncker de redistribution des réfugiés. L'idée serait de créer une sorte d'Europe de l'immigration à 2 vitesses, en faisant appel aux pays fondateurs pour déroger aux accords de Dublin et permettre aux États d'étudier une demande de protection internationale présentée dans un autre pays membre. Si l'Europe n'est pas seulement la technocratie mais le respect des valeurs des fondateurs, je ne vois pas comment on pourrait dire non, aurait dit Matteo Renzi, qui a encore dans sa besace une directive européenne de 2001 sur la protection temporaire des déplacés. L'Italie pourrait ainsi délivrer des permis provisoires d'identité pour permettre aux demandeurs d'asile de passer les frontières. Autres pistes évoquées dans la presse, demander aux navires qui participent aux opérations de secours de ramener les réfugiés dans leur pays et non pas les débarquer en Italie. Dans les faits, l'Italie est déjà un pays de transit. Sur les 170 000 réfugiés arrivés l'année dernière, seuls 63 000 ont déposé une demande d'asile dans la péninsule.
Anaïs Feugat, notre correspondante à Rome. En Syrie, les Kurdes infligent un sérieux revers à l'État islamique. Ils ont repris ce soir le poste frontière de Tal Abyad, juste en face de la Turquie. Les combattants kurdes de l'IPG ont réussi à pénétrer dans la ville, dont ils contrôleraient la quasi-totalité, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les djihadistes sont coupés de leur fief de Raqqa. Dans leur assaut, les Kurdes ont bénéficié de l'aide aérienne des avions de la coalition qui bombardent sans relâche les positions l'action de l'État islamique. Un mot de la politique aux États-Unis avec Jeb Bush qui annonce officiellement sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de novembre 2016 aux États-Unis. Retour en France avec la météo demain, toujours de l'instabilité sur une large moitié sud. Des averses de l'Aquitaine à Rhône-Alpes, des orages qui éclateront sur les régions méditerranéennes. Au nord, un temps calme et agréable. Les températures maximales de 20 à 23 degrés du nord au sud jusqu'à 27 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.